à tous. Ondes positives, l'émission qui émet de bonnes ondes, c'est maintenant. Alors restez avec nous pour faire le plein de positif et d'optimisme. Cette semaine, je suis en compagnie de Christelle Tourès qui vient partager son énergie positive avec nous. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Et merci d'ores et déjà pour le partage.
Merci beaucoup.
Christelle, tu es une jeune Montalbanaise de 26 ans. Jeune en âge, mais avec déjà beaucoup de maturité puisque tu es maman deux fois. Et entrepreneuse, tu as imaginé, créé et monté une micro-crèche à Montauban qui a ouvert il y a quelques mois.
Oui, tout juste.
Et ce projet a duré 3 ans avant de se concrétiser. Donc il en faut de l'optimisme et de l'énergie pour tenir le cap. Et tu l'as fait.
Oui, c'est possible.
Alors tu dis à propos du temps, justement, que le temps n'est pas un frein, mais un allié. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Bien que le temps, souvent on dit ça prend trop de temps, j'ai besoin de temps, j'en ai marre, c'est vraiment trop long. Ce temps-là, quand il est nécessaire, il n'est pas compressible en fait. On doit le vivre et prendre les expériences, les faits qui se déroulent pendant ces passages, ces passades. Et quelque part, lorsqu'on pense qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Sauf qu'on n'en a pas forcément la conscience immédiate. On le comprend souvent en rétrospective. Et dans ce projet qui a duré donc 3 ans, on est passé par des phases qui ont duré presque un an chacune. Et quand j'ai regardé dans le rétroviseur, je me suis rendu compte que j'aurais jamais pu sauter certaines étapes.
Oui.
Elles m'étaient fondamentales pour la construction du projet et pour amener chaque pierre à l'édifice et faire qu'il ne s'effondre pas en fait.
Donc ce projet, il t'a appris la patience.
Oui, je sais pas si je peux vous définir comme patiente aujourd'hui, on va pas non plus exagérer, mais oui, il m'a forcé. m'a forcé à apprendre à accepter ce temps.
Franchir les étapes, maturer à maturer.
C'est pas que je me pensais que je n'avais pas besoin de temps, mais j'avais pas la conscience, j'avais l'insouciance de penser que voilà, tout était possible, que j'en avais pas besoin, et les besoins se sont imposés et je les ai acceptés et j'ai pu mûrir et avancer sereinement après.
Est-ce que tu avais une prédisposition à être entrepreneuse?
Alors j'ai toujours aimé créer des à l'époque, c'était souvent sous forme de dessin, quand j'étais plus petite. À l'âge de 9 ans, j'ai écrit un petit roman avec ma machine à écrire où on tapait sur les touches, parce qu'on n'avait pas les ordinateurs. Donc, toujours envie d'imaginer, de créer, voire même, je vivais peut-être un petit peu dans une forme d'imaginaire qui m'appartenait et que je partageais qu'avec certaines personnes. Et c'est vrai que j'attendais le moment où un jour j'aurais un projet. Dans ma famille, ma mère travaille est fonctionnaire et mon père, lui, est en profession libérale dans la finance. Mais je n'avais pas, en fait, à la maison une entité physique, une entreprise, un bâtiment, des salariés. Tout ça était très dispersé dans la nature. Mon père avait plus la casquette d'un commercial.
Oui.
Il devait aller démarcher ses clients. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, quelque part, à la maison, il n'y avait pas de traces d'une entreprise. Par contre, dans l'esprit, c'est vrai qu'il y avait des fonctionnements d'une entreprise du côté de chez mon père. Donc, on avait souvent l'occasion de parler d'économie, de marché. J'adorais ça.
Alors, on va retracer rapidement ton parcours, si tu veux bien. Donc, tu es née à Montauban. Tu y passes une enfance et une adolescence heureuses, sans rien de particulier à signaler. Et c'est vers 18 ans que ça se gâte. Qu'est-ce qui se passe ?
À 18 ans, mes parents divorcés et tout ce que je pensais acquis s'est effondré. J'ai dû repartir sur d'autres bases et un autre modèle de la famille, un autre modèle de la relation à l'autre masculine.
C'est une perte totale de repères pour toi ?
Oui, oui, oui. C'est comme si le sol était descendu de 4 niveaux, qu'il faille revenir juste à 0 pour repartir à plus 1, plus 2, plus 3. Donc en fait, là, c'est la perte des repères d'une enfance qui me semblait parfaite.
Oui. Tu perds pied parce que tu t'y attendais pas ? à cette
d'une,
rupture.
D'une, je ne m'y attendais pas, et de deux, j'ai cette forme de culpabilité tout le temps, de me dire peut-être qu'on est responsable de ça, mm-hmm. peut-être qu'on a été des enfants qui étaient pénibles. Non, en fait, c'était complètement faux, mais ce poids était là, et en plus de ça, donc... Je m'identifiais beaucoup à mes parents et puis là du coup j'ai plus mes modèles et je dois me trouver moi-même.
Ouais, tu ne sais plus qui tu es du coup.
Oui.
Mmh. Alors 18 ans, c'est le moment où tu commences tes études.
Mmh.
Tu choisis de faire une école de commerce et de distribution.
Voilà, oui.
À Toulouse, hein,
oui.
Je crois. Et dans le cadre de ces études, tu dois faire des stages et tu choisis de fuir loin à l'étranger.
Oui, oui. Après, je reste en Europe.
Oui.
Je reste en Europe. Après, c'est le rapport, je pense, aussi avec le portefeuille. Hein. Je suis partie en fonction de mes moyens. Donc, je suis allée en Espagne, en Angleterre.
Oui.
Donc, deux expériences très, très marquantes. Voilà.
Alors, raconte-nous ce qui se passe en Angleterre.
Donc, l'Angleterre, il fait froid.
Oui.
C'est pas bon. On mange pas des choses. Moi, j'ai pas trop apprécié le climat, l'environnement. Le cadre aussi, puisqu'on était dans un campus un peu parqué, on ne pouvait pas forcément sortir parce qu'on était dans une petite ville qui affichait le plus fort taux de criminalité. Donc on nous maintenait dedans en nous disant « Vous avez tout sur place, la discothèque, le supermarché, enfin la totale, donc vous sortez pas ». Le pire pour moi, en fait, qui voulait m'évader, fuir un peu,
ouais.
Je me retrouve parqué. Un peu comme une petite prison dorée, on nous dit tout est bien, vous restez là parce que après et effectivement le climat était tendu dans cette ville. J'ai même essayé de travailler un petit peu, faire des petits boulots et j'avoue que j'étais pas rassurée de rentrer toute seule le soir. Je travaillais dans des petites épiceries et je finissais vers minuit et il me fallait traverser les petites rues. Ça faisait plus coupe-gorge que
petit à petit pendant cette période en Angleterre, tu vas aller jusqu'au bout de tes limites, tu vas te tester.
Oui, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais pas bien du tout, je voulais pas sortir même de ma propre petite chambre, je restais enfermée. Toute la je sortais pour mes 12 heures de cours, parce qu'il y avait 12 heures de cours obligatoires. Donc je sortais pour mes 12 heures de cours, et après j'allais dormir.
Ouais.
J'allais dormir tout le temps. J'allais boire, parce que j'avais soif, mais j'avais plus envie de manger, je me laissais là, comme ça, un peu végéter, dormir, me lever pour boire, et puis aller voir une amie qui habitait pas très très loin. Mais encore que c'était l'expédition, donc en fait, au bout de 6 mois, j'y allais plus. Et là, je commençais à être de plus en plus affaiblie.
Oui.
Jusqu'au moment où il a fallu rentrer en France.
D'accord. Donc tu te laisses dépérir, et tu me dis, j'avais du noir à sortir de moi.
Oui. Quelque part, je me disais, si ça peut pas aller plus bas. Et puis si, j'allais de plus en plus mal. Et j'ai dit, à un moment donné, je vais quand même avoir envie de faire des choses. Et non, il y avait rien qui venait. J'avais pas envie. Et j'attendais le moment où j'aurais envie de quelque chose.
Oui.
Sauf que c'était long.
D'accord. Alors, c'est comme une forme de purgatoire, comme s'il fallait purger quelque chose.
Ouais, un énorme jeûne. quelque chose qui, je sais, dans ma tête, ça a été très court et pourtant, ça a duré longtemps. Mais à partir du moment où j'ai rebondi, on va en parler à quel moment, mais à partir du moment où j'ai su que ça y avait il y avait une lumière quelque part, je me suis remise en forme, remise bien.
D'accord. Donc la lumière dont tu parles, c'est une réponse positive à une demande de stage
en Espagne. Voilà. Ouais. C'est tout simplement, il fallait, en plus, mes études n'étaient pas finies, donc moi j'ai été affaiblie, je m'étais dit je vais jamais tenir, je vais pas arriver au bout, et ça c'était la pire chose. À mes yeux, alors que dans la vie, c'est pas forcément grave si on va pas au bout de quelque chose. Ça, je l'ai appris après. L'essentiel, c'est de faire des choix et des vrais choix et de se donner les moyens d'arriver au bout de ces choix-là et de ces priorités, mais pas forcément de tout mener de front et de vouloir tout faire. Ça, c'est vrai que l'école de commerce, c'était ça. C'était, il faut être un peu bon partout, on touche à tout, il faut être polyvalent et on n'est pas forcément des machines de guerre et de travail. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu cette réponse de stage en Espagne, je me suis dit, waouh, là, l'environnement va vraiment m'aider. Je suis bien tombée. Et là, franchement, il faut que je me remette sur pied.
Et quelqu'un va t'aider là-bas à te remettre sur pied.
Voilà, là-bas, je rencontre déjà une équipe. Je rencontre déjà mon patron là-bas est quelqu'un d'assez emblématique. Il a fait le tour du monde, il a quitté son emploi à New York de consultant pour faire le tour du monde avec tous les moyens de transport qui existent. Et à l'issue de ça, il fait un journal et il crée une entreprise d'événementiel pour faire des événements avec d'autres entreprises. Et nous, on est 15 à peu près 15 stagiaires de presque 5 nationalités différentes. Donc il y a toutes les langues. On travaille ensemble à la logistique, au matériel, et on doit monter les petits événements. Mm-hmm. Et on fait le tour de l'Espagne comme ça.
D'accord.
Et cet homme m'aide beaucoup, me dit mais voilà, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, ça va aller, viens avec nous. Il me fait partager, il me ménage un peu aussi au début parce qu'il voyait que j'étais un peu fatiguée. Mm-hmm. Et il me met en confiance et je suis bien dans l'entreprise déjà. Mm-hmm. Ben après, je suis pas forcément très bien chez moi. Quand je rentre chez moi le soir, un petit appartement, toute seule. Certes, j'ai l'environnement, j'ai le cadre, mais j'ai une forme de solitude.
Oui.
Et donc, je reste dehors tout le temps. Je rentre jamais. Mm-hmm. Je passe tout le temps jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, en Espagne, il fait jour tard. Je vais un peu partout, je me balade et je rencontre un homme qui vit sur la plage toute la journée.
Un marginal
qui m'explique, en fait, que voilà, il a choisi cette vie-là, qu'il demande rien.
Oui.
Donc ça, c'est au début je le crois pas. Je dis non, c'est obligé. On parle en espagnol, on se comprend sur un langage qui est pas forcément le même que quand on parle la même langue. Donc moi je le croyais pas vraiment. Je pensais vraiment qu'il demandait forcément à manger, qu'il allait faire la manche, Et non, en fait, je l'observe de loin au début. Mmh. De loin, je le regarde et effectivement, il demande rien. Il va nager tous les matins 2 kilomètres dans la mer et je peux le voir de mon appartement nager. Mmh. Il va courir tous les matins jusqu'à un phare. Il a 60 ans.
Oui.
Et après, il médite toute la journée sur la plage. Il fait la sieste l'après-midi et après, il s'occupe un peu des gens à droite à gauche. Mmh. Et il prend énormément soin de lui, voire à l'extrême. Moi j'étais de l'autre côté et lui il était de l'autre côté. Mm-hmm. Moi je prenais pas du tout soin de moi et lui
oui, il était dans une forme d'autodestruction pendant un moment. Ouais.
Et il me dit il faut se reconstruire, il faut que tu t'aides, il faut que tu t'aimes, il faut que tu t'acceptes, et il faut que tu aies confiance en toi, voilà, il faut repartir.
Donc il va t'enseigner d'autres règles de vie.
Oui, ouais. Possible.
Il te fait faire du sport aussi, ou tu en faisais avant?
J'en faisais déjà avant.
Ouais.
J'en faisais déjà avant, un peu moins. Il me dit de continuer, même si je suis un peu fatiguée. Il me dit de pas arrêter, que ça aide aussi à l'esprit à reprendre des forces. Ouais. Et l'un dans l'autre, voilà, il me refait une santé.
Alors toi, tu aimes beaucoup courir?
Oui, j'ai toujours aimé ça.
Ouais. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu cours?
Quand je cours, je décroche un peu de la réalité. Je pars dans cet imaginaire-là qu'aujourd'hui, la réalité, quelque part, parce que j'ai besoin de l'accepter, de la comprendre et d'en maîtriser les tenants, les aboutissants pour mon projet et pour ma vie, parce qu'elle est bien là, cette réalité. Il faut absolument des fois que je m'échappe. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que de courir, là, c'est plus du tout la réalité qui parle, c'est vraiment exclusivement que les envies, les rêves, les motivations, tout ce qui reste, tout ce qui a l'initiative de tout, en fait. Mmh. Mais qui reste toujours un peu en retrait dans notre quotidien.
Quand tu cours, tu rêves ta vie en quelque sorte.
Oui. Et je rêve ma vie et je vis mes rêves.
Ouais. Et puis ce monsieur, il t'apprend aussi autre chose qui est important pour toi aujourd'hui, c'est que on se crée bien souvent des besoins inutiles.
Oui. Vu qu'il avait rien, mm-hmm. à part un parasol, un pareo, des gousses d'ail parce qu'il adorait manger des gousses d'ail, du sucre, du thé maté. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Des palmes. Voilà. Il avait en fait ce qu'il avait besoin réellement pour être bien. Mmh. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses dont je n'avais pas besoin pour être bien et qui en fait me freinaient sans arrêt. Ou parce qu'après quand je les avais plus, j'allais les chercher, mais j'en avais pas vraiment besoin. Mmh. Donc je perdais beaucoup de temps. Voilà.
D'accord. Donc tu apprends avec lui à retrouver tes valeurs, tes vraies valeurs.
Oui. Je fais mes expériences qui m'appartiennent, propres. Oui. Un exemple, il m'avait dit que ça ne sert à rien d'aller travailler le soir. Je travaillais déjà la journée, j'avais un petit salaire qui me suffisait pour ce que j'avais besoin.
Oui.
Mais j'avais quand même accepté un petit travail le soir dans un magasin de chaussures qui fermait tard. Et il m'avait dit, tu sais, tu n'en as pas besoin. Et en plus de ça, tu ne viens plus à la plage, tu ne prends plus le temps pour toi que tu prenais le soir qui se faisait du bien pour être là avec nous. Mm-hmm. Tu vas travailler, ça se passe mal. Je dis oui, mais bon, j'ai un peu plus de sous. Et à ce moment, il me disait, c'est pas ça que t'as besoin. Et on s'était un peu disputé. Mm-hmm. Disputé en espagnol. Donc, on s'est parlé plus, on s'était disputé. Et en fait, je me suis cassé un peu la cheville.
D'accord.
À ce moment-là.
C'est ton corps qui t'a dit que fallait pas y aller.
En descendant le matin pour aller travailler, la cheville a lâché. Mm-hmm. Et donc, le soir, j'arrive en pleurant à la plage. Et il me demande qu'est-ce que j'ai. Et j'ai dit, je me suis cassé la cheville. Mais c'est bien ironique pour quelqu'un qui travaille dans un magasin de chaussures.
Ouais.
Tu vois de quoi t'as l'air maintenant, tu boites, t'as mal et tu vends des chaussures. Mm-hmm. Donc il m'avait dit, ça sert à arrête, c'est bon, t'en as pas besoin, c'est bon. Mais je faisais mes petites expériences à ce moment-là.
Alors, tu dis à ce propos, hein, quand on est adulte, il s'agit de se connaître soi-même. Quand on est enfant, les parents posent des jugements et on croit être comme les parents nous disent qu'on est. Et puis, on s'aperçoit plus tard que finalement, on se connaît pas et il faut se découvrir.
Oui, c'est vrai que c'est... Aujourd'hui, j'arrive pas trop. Je dis pas à ma fille, elle a ce tempérament-là, elle est comme ci, elle est comme ça. Je parle pas d'elle, un peu sur son dos quelque part, parce que je veux pas qu'elle entende. Parce que s'il faut, elle est pas comme ça. Et s'il faut, elle va être complètement différente plus tard. Et c'est parce que moi, je lui ai dit qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça. Donc, c'est vrai que je vais vraiment laisser vivre mes enfants leur intégrité plus que leur personnalité, parce que plus tard, peut-être, ils sauront vraiment qu'ils sont. Peut-être plus rapidement que moi, je l'ai su.
Alors, on écoute le premier morceau de musique que tu as choisi. Hein, c'est The Cardigans, You're the Storm.
Oh, it's healing, bang, bang, bang. I can hear your cannons call. You've been aiming at my land. Your hungry hammer's falling. And if you want me, I'm your country. I'm a my borders and kill the calm. Bear your fangs and burn my wings. I hear bullets singing. And if you want me, I'm your country. If you win me, I'm forever. Oh yeah. 'Cause you're the storm.
Cardigans, You're the Storm. Qu'est-ce qu'elle représente, cette musique, pour toi, Christelle?
Elle représente un peu la tempête d'une adolescence un peu mouvementée.
Oui. Voilà,
c'est ça. Des moments d'introspection assez violents où je voulais vraiment savoir au fond ce que j'avais pour pouvoir faire plus tard. Tout ce que j'avais en outil pour la suite, et si j'en avais, Quels étaient-ils?
Alors, tu, bon, on a parlé de ton stage en Angleterre, en Espagne. Il y a aussi un troisième stage dont on parlera moins que tu fais sur la Côte d'Azur. Mais au final, tu ne vas pas au bout de tes études.
Non.
Tu ne fais pas la dernière année.
Non. C'est l'année de la création d'entreprise. Donc, ouais. C'était la meilleure année, en fait. Mm-hmm. Je l'attendais, mais depuis que j'ai commencé.
Ouais.
C'était l'année où on présentait un projet à une banque.
Ouais.
Et la banque nous suivait ou pas.
D'accord.
Donc, je l'attendais. En plus, j'avais demandé une spécialité dans la partie entreprise créative et culturelle. Vu que je revenais d'un stage dans le monde artistique et culturel, je m'étais dit, c'est génial, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.
Ouais.
Et puis non, finalement, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai eu des difficultés financières à financer la dernière année.
Oui.
Et puis l'envie est partie. Je crois que c'est ça qui est pire que même les difficultés financières, parce que quelque part, les difficultés financières auraient pu été presque un prétexte, parce que j'aurais pu souscrire un crédit. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui ne financent plus leurs études d'entrée. Il y a un crédit, ils le remboursent à l'issue des études. Donc l'envie avait disparu. Je voulais plus apprendre, je voulais faire. Et c'est à partir de là que j'attendais l'idée pour continuer, mais je voulais vraiment faire. Je n'étais plus dans l'enseignement. Je voulais plus écouter.
Ouais. En fait, tu t'étais découverte. Tu avais fait tes expériences et ce que tu apprenais ne te correspondait pas.
Oui, aussi. C'est vrai que je m'étais découverte après ces trois expériences. Je pense que j'en avais passé quelques-unes qui étaient constructives. Et là, maintenant, cet enseignement était, enfin, très théorique, très parfois un peu déconnecté, ou même le milieu, tout simplement, l'environnement, la compétition,
le monde de la distribution,
le monde de la distribution, des camarades parfois de classe un peu difficiles, enfin, dans le sens où on s'entraidait pas du tout. Mm-hmm. Et j'avais pas cette vision. Pour moi, on peut être seul pour faire une initiative, mais il faut s'entourer des meilleurs et il faut travailler en équipe.
Donc tu décides de travailler, hein, parce que tu as besoin de travailler pour gagner ta vie.
Oui.
Tu vas faire des petits boulots d'intérim.
D'animation exclusivement, en grande distribution. Donc je vais pas chercher non plus, je reste toujours un petit peu dans mon milieu, comme s'il me poursuit encore.
Oui.
En fait, et que j'arrive pas encore à m'en sortir, puisque je suis encore en grande distribution, dans l'animation, donc je suis pas dans les postes chef de rayon et autres.
Ouais.
Mais, et du coup, là, je suis bien parce que quelque part, j'ai cette liberté, ça dure 2-3 jours, donc je fais ma petite mission, je rencontre des gens, je leur donne un peu de bonne humeur à travers un produit. En général, j'essaye que ce produit me plaise, donc c'est le café, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup le café, en fait.
Ouais.
Je me rends compte, j'ai fait pas mal de café, le coca. Voilà, des choses, des produits encore, des boissons, des gâteaux, des choses où les gens ils ont envie de partager un moment avec nous. Et autour du café, justement, ça s'y prête. Et donc, dans la journée, je passe mon temps à discuter.
D'accord. Donc, ça te plaît, ces petites missions te plaisent.
Oui.
Mais tu t'installes dans une forme de précarité aussi.
Oui. Par contre, là, je m'installe dans une forme de précarité. J'attends que l'agence d'intérim m'appelle. Je suis dépendante d'eux. Et puis je vois pas les perspectives derrière tout ça.
Ouais.
C'est-à-dire que je vois ça comme une période obligée, un passage, mais je veux qu'il s'arrête rapidement, toujours, parce que y a pas de perspective. Parce qu'en fait, même à l'issue, si j'étais embauchée en grande distribution dans un poste à responsabilité, je voulais pas. Donc je me demande à chaque fois pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, quand est-ce que je vais voir en fait la finalité de tout ça.
Et la réponse arrive parce que tu tombes enceinte.
Voilà, donc je tombe enceinte et je continue quand même. Enfin, j'apprends que je suis enceinte. À l'époque, j'étais dans une institution de hard discount.
Oui. Tu as 23 ans à l'époque.
J'ai 22.
22, d'accord.
Parce qu'on est l'hiver. Je distribue des questionnaires à la sortie de caisse et le soir, je vais chercher mes analyses. Donc, puisque j'étais un peu fatiguée, j'apprends donc que je suis enceinte. Et là, c'est vraiment la joie qui s'empare de moi et je m'imagine pas un instant ne pas accepter cette grossesse et je continue. Voilà, je me pose plus de questions.
Cet enfant, tu l'as fait avec un conjoint que tu vois depuis des années, hein?
Oui. Mm-hmm. Que je vois depuis des années, qu'on est ensemble depuis longtemps, on vivait pas forcément ensemble. Cet enfant nous a rapprochés, nous a installés quelque part dans une vie plus cadrée.
Ouais, plus stable.
Plus stable. Mais je sais toujours pas à ce moment-là ma vie professionnelle à quoi elle ressemblera.
Oui.
Donc je passe une grossesse avec plein d'interrogations. Je lâche pas le travail quand même. C'est-à-dire que même enceinte, s'il y a des missions, j'y vais. Jusqu'à la dernière, ou même je vais jusqu'à Cannes. Là, j'ai un peu abusé, j'avoue. Je suis allée à Cannes, j'étais enceinte de presque 8 mois. Je suis sur le festival de Cannes, je distribue je fais la communication d'une marque de sac de haute couture. Mmh. Et là, je suis très fatiguée parce qu'on marche avec des claquettes, donc c'est pas physiquement facile. Et je rentre, en fait. Je vais pas au bout de ma mission de 10 jours. J'y suis pas arrivée, j'étais trop fatiguée, je me suis fait un peu peur aussi par rapport à la petite. J'ai pensé qu'elle arriverait un peu prématurément. Donc là, mmh. je reprends conscience qu'il faut que j'arrête et je rentre.
Tu vas accoucher, évidemment. Voilà. Hein. Tu es une belle petite fille. Et c'est à ce moment-là que tu prends conscience de la problématique de la garde.
Oui.
Ouais. Alors, quelle est la problématique ?
La problématique de la garde occasionnelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je pouvais pas prendre un contrat dans une crèche de 5 jours/semaine. Déjà, j'en avais pas le besoin. Mmh. J'avais besoin juste d'une journée, deux journées pour construire mon projet. Six projets j'avais, parce qu'en fait, avant de faire la crèche, j'avais déjà travaillé avec la chambre des métiers et de l'artisanat pour un premier projet qui n'avait rien à voir. C'était un concept de bar, donc le milieu de la nuit, un concept de bar et des cocktails à très petit prix et avec des animations derrière dans le bar.
D'accord.
Donc ça, c'était un premier projet. Donc j'avais déjà fait un business plan et j'avais travaillé à la chambre des métiers de l'artisanat. Donc quelque part, je cherchais encore une idée à ce moment-là.
Et donc tu t'aperçois que quand on est au chômage ou avec des boulots précaires, oui. à temps partiel, et que en fait on peut pas faire garder son enfant, il y a pas de place dans les crèches.
C'est compliqué. Les assistantes maternelles, elles doivent nous faire un tout petit contrat, un peu sur mesure. Elles doivent trouver un peu l'équivalent temps plein derrière. Mm-hmm. Donc c'est pas forcément facile pour elles. Elles doivent s'assurer une forme de sécurité.
Oui.
Puisqu'elles sont salariées d'un employeur qui est le parent. Mmh. Et après, les crèches préfèrent aussi avoir quelqu'un qui vient du lundi au vendredi, de 8h à 17h. C'est plus simple que plein de petits contrats par-ci, par-là. Mais il y a le besoin. Oui. Il y a plein de personnes qui étaient dans mon cas et je les rencontre, je les découvre en fait dans les agences d'intérim, au Pôle emploi quand j'y vais. Et là, je me dis vraiment un petit établissement qui ferait ça, ce serait bien.
Oui. Alors comment, quand on a 22 ans, qu'on est au chômage puis au RSA, qu'on a un enfant en bas âge, on se dit tiens, je vais créer une crèche innovante qui réponde à un besoin existant.
Ben moi je me suis dit c'est ça a son utilité. Donc ouais. ça j'en étais convaincue, j'avais pas besoin de me convaincre à travers le projet. Donc j'étais convaincue de l'utilité, de l'impact social que ça aurait.
Ouais.
Je me suis dit il faut créer un projet qui ait aussi un impact environnemental voire culturel. Mmh. J'avais envie de tout mettre en fait.
Ouais. Donc tout ce qui te tenait à cœur,
oui,
toutes tes valeurs.
Mes valeurs c'était préserver l'environnement et je l'ai compris dans mes stages. Mmh. Après se faire un environnement humain avec des gens de valeur, c'est important. Et tout ça, je l'ai compris, j'avais envie de l'avoir dans mon projet. Donc, aujourd'hui, j'ai pu avoir ça. Donc, en fait, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, c'est possible de monter ce type de projet. Et j'avais vraiment plaisir à le faire aussi. Mm-hmm. Même si c'était difficile. J'adorais faire ça, faire des dossiers, y mettre toutes mes convictions, passer des oraux, défendre mes valeurs, c'est ça, et mes convictions.
Et j'imagine que tu rencontres plein d'écueils.
Oui. Oui, des critiques formidables.
Ouais. Alors comment tu fais pour faire face à tout ça?
Déjà, je réponds.
Oui.
Avant, je répondais pas forcément à la critique.
Oui.
Là, maintenant, je réponds avec ce que j'ai au fond de moi et après, ça fait écho. Comme en fait, je garde pas à l'intérieur la critique négative. Mm-hmm. Je réponds avec ce que je pense de sensé, en connaissance de cause, parce que je suis en train de vivre quelque chose dans la création. Et quelque part, même parfois, je pense que ça a eu, je le sais pas, j'en ai pas conscience, mais je pense que ça a fait rebond et que ça a sensibilisé des gens qui l'étaient pas et qui se sont dit, ah ben peut-être on pourrait l'aider, on pourrait la mettre en relation avec, mm-hmm. parce qu'au moment où quelque part on me critique, je trouve mes alliés.
C'est oui. ça.
Et c'est ce qui s'est souvent passé. Une banque dit non et puis finalement je trouve une banque qui dit oui pour les vraies raisons de mon projet. Et pas un oui, bon d'accord, on vous accorde un prêt, ça va fonctionner. Non. Vraiment, je voulais des vrais oui.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est que le projet n'est pas encore concrétisé, la crèche n'est pas ouverte, etc. Et tu commences déjà à gagner des prix.
Oui, ça c'est incroyable.
Alors, quel prix tu gagnes, par exemple?
Alors, on gagne le prix SFR Jeune Talent, on gagne le prix Créatest d'un organisme d'études de marché, coup de cœur du jury. On est en finale de... trois autres concours, donc ça veut dire qu'à chaque fois je me déplace sur Paris, je vais passer les oraux, j'attends la remise des prix. Donc je fais ces fameuses finales là, et où je suis laissée de côté. Et à chaque fois, je me dis, c'est pas grave, pourquoi? Et donc, je vais chercher le jury, je leur demande de m'expliquer les raisons de pourquoi. Et là, il ressort, vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup d'apports, vous n'avez pas le diplôme qui est le CAP petite enfance, vous connaissez pas assez le milieu, donc pas l'expérience. Les couches lavables, on n'y croit pas trop, c'est embêtant ça. Donc, j'ai même perdu un prix à cause de ça. Donc, je leur ai dit, mais revenez, ils m'ont dit, revenez l'année prochaine, sans les couches lavables, vous gagnerez le prix. Parce que ça y aura pas de problème. Et je dis non, je reviendrai pas l'année prochaine sans les couches lavables parce que ça faisait partie du projet.
Oui.
Et vous l'avez en plus accepté dans les dossiers, dans la première sélection. Fallait pas me faire rentrer dans la sélection si vous n'y pensiez que c'était pas viable. Le comptable avait dit que c'était pas une bonne idée.
Bon. Toi, tu crois à ton projet, tu gardes la tête haute.
Oui.
On écoute justement Keep Your Head Up de Ben Howard.
Voilà.
I spent my time watching the spaces that had grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom, still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft at my skin, yeah, the sun so hot upon my side, oh, looking out at this happiness, I search for between the sheets, oh, feeling blind to realize all I was searching for was me, oh, oh. Wildflowers, oh.
the demons of change.
Ça veut dire quoi de garder la tête haute pour toi? Qu'est-ce que ça représente?
Mais c'est pas de s'effondrer aux premières critiques, remises en question et autres avis ou opinions, je dirais même, parce que c'est le pire ça. Les opinions, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui n'a aucun élément, mais qui vous le dit et ça peut vous affecter. Donc là, je me suis toujours dit non, il faut absolument avoir la carapace, j'ai pas fait tout ça pour rien, je sais de quoi je parle. Certes, j'ai pas l'expérience en tout et pour tout, mais j'ai quelque chose à amener quand même.
En fait, Christelle, tu inventes de nouveaux modèles.
Je retravaille l'existant.
Oui.
Faut pas dire que j'invente. Je pense pas que j'invente, mais je m'inspire et je retravaille l'existant. Oui, c'est vrai. Je prends le meilleur là où il est et je jette le reste.
Donc, dans ta crèche, pour en parler rapidement, qu'est-ce qui se passe, qui ne se passe pas dans les autres crèches?
Alors, j'ai fait quelques petits stages dans d'autres crèches, donc j'ai pu voir qu'il y a des choses à la crèche de chez nous qui se passent pas aux autres. Donc déjà, le choix des couches lavables a impliqué une logistique différente qu'il y a dans les autres crèches. Donc le fait qu'on ait les couches lavables, on n'a pas de sac poubelle, on jette pas les couches, on commande pas des stocks de couches, on n'est jamais en manque de couches puisqu'on les lave. Donc quelque part, on n'est pas dépendant d'un fournisseur lambda. On a un partenaire de couches, mais on n'a pas un fournisseur. Ça, c'est important, cette notion-là. C'est on a un partenaire qui est là, qui nous fait des formations sur Skype pour bien utiliser les couches lavables, qui nous propose de nouveaux produits si elles en ont créé. La femme qui a créé ce modèle de couches, elle a gagné beaucoup de prix et puis elle a un parcours particulier aussi. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. Elle a imaginé un produit qui convienne et qui préserve l'environnement. Et qui nous permettent aussi, nous, en tant que structure privée, de s'y retrouver.
Oui.
Financièrement aussi.
Et ces couches, elles sont lavées par un atelier.
Voilà. J'ai voulu aussi, parce que je m'en suis rendu compte en discutant avec des personnes qui travaillaient en crèche. J'ai rencontré plus d'une quinzaine, vingtaine de personnes qui travaillaient en crèche durant l'étude de marché pour comprendre quelles étaient leurs motivations et leurs freins. Et un des freins, c'était quand il y avait l'utilisation des couches lavables, de les laver et de s'occuper de ce linge qui prend du temps. Et donc, là, j'ai dit, il faut externaliser. Maintenant, j'ai chiffré. J'ai voulu savoir si ça allait nous coûter plus cher, moins cher, pour qu'on s'y retrouve. Et au final, on fait même une économie en travaillant avec un centre de travail en situation de handicap, en leur donnant notre linge et ils nous le ramènent tous les jours.
Voilà. D'accord.
Donc, tout le monde s'y retrouve.
Il y a aussi une réservation en ligne qui est possible?
Pas encore.
Mais ça, c'est ton projet.
C'est le projet.
Oui.
C'est pour nous une vraie innovation sociale et un gain de temps dans la gestion qui est important. Centraliser toutes les demandes de réservation pour les disponibilités en crèche que les parents pourront consulter. Et quelque part, les parents auront aussi un regard sur la crèche et une main sur la crèche pour, en fonction de leurs besoins. Et on verra si ça concorde avec notre organisation pour satisfaire leurs besoins.
Et puis c'est interactif, ça veut dire que la maman qui a un entretien d'embauche qui n'était pas prévu peut regarder sur internet si la crèche peut accepter un enfant.
Voilà, c'est ça. Et après, faut pas tomber dans le côté pervers de ça, qui existe, qui est de se dire on vous le laisse une heure, on connaît pas l'enfant, on vient le chercher. Voilà. Chaque enfant a un dossier, chaque enfant a une adaptation. Même dans l'urgence, on essaye d'avoir une petite adaptation, parce que des missions d'intérim, des fois, elles tombent du jour au lendemain. On ne dépose pas un enfant comme ça, qui nous connaît pas, dans un fonctionnement. C'est pas anodin, ce sont des petits êtres humains qui ont besoin d'être protégés et ils ont leur mot à dire, et ils nous le disent d'ailleurs, avec leurs mots. Donc, on prend le temps aussi, c'est pas un drive. Voilà, on va pas tomber dans ce côté pervers qui pourrait être. On va être flexible, mais pas n'importe comment, et il y aura quand même des règles, même si c'est de l'occasionnel.
Alors, tu réinventes un nouveau modèle professionnel, tu inventes aussi ton rôle de maman, ta maternité. Tu as une vision de la maternité, du congé maternité.
De la grossesse aussi.
De la grossesse, ouais, qui est bien à toi.
Voilà.
Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le sujet?
Alors que la grossesse, c'est motivant, c'est pas handicapant.
Oui.
Quand j'ai su que j'étais enceinte, je démarrais une formation avec une organisation assez stricte, 2 jours de stage, 2 jours de cours et le vendredi que je me réservais pour l'ouverture de la crèche en mars. Donc enceinte, j'ai réussi à mener plusieurs choses en même temps et à les mener à bien, donc c'est-à-dire à terme, la petite va bien. Le CAP petite enfance, je l'ai obtenu à la fin de la formation et la crèche a ouvert. Donc en fait, quelque part, c'était vraiment motivant de pouvoir attendre ce bébé et c'était pas un frein. Et la maternité après, donc un enfant en bas âge, j'ai plutôt un aspect participatif, c'est-à-dire que je fais participer mes enfants à mon emploi du temps, je prends les précautions nécessaires, mais après ils sont présents dans mon quotidien. Ils sont pas mis de côté.
D'accord. Ce que tu veux dire par là, c'est que c'est le choix de chaque femme de prendre un congé pendant sa maternité
et de le vivre comme elle le veut.
Oui.
Comme elle le veut, la loi a défini des cadres qui correspondent à l'ensemble. Moi, ils m'ont pas du tout correspondu.
D'accord.
Donc du coup, je les ai un peu bougé les cadres, voire un peu élargi, et j'ai posé mes conditions et je me suis pas du tout attachée à ce congé maternité qui n'a pas eu lieu. En ce moment, je suis en congé, j'ai un congé, mais j'ai plutôt je découvre ma fille, elle découvre ma vie, elle découvre
ta deuxième fille,
ma deuxième fille, j'apprends à la connaître, elle apprend à connaître son environnement aussi, et je la maintiens pas à la maison, dans un environnement, pendant 2 mois, pour dire que je fais un congé maternité.
Oui.
La vie continue, elle y participe, elle est là, je prends les dispositions qu'il faut pour qu'elle soit bien et qu'elle souffre pas d'un emploi du temps un peu chargé, voilà.
D'accord. Ce message, il est important pour toi parce que tu subis parfois le jugement de certaines personnes qui pensent que il faudrait que tu sois toute dédiée à tes enfants.
Voilà, pendant 2 mois et demi, dédiée, quitte à en fait en être frustrée quelque part après leur faire ressentir, et c'est des éponges, donc ils vont bien me le faire sentir que je suis pas bien. Là, je ressens que mes enfants sont bien quand je suis bien. Et ça, c'est cette satisfaction que j'ai de cette liberté que je m'autorise de vivre, d'avoir vécu ma grossesse comme je l'entendais et de vivre ma maternité comme je l'entends.
D'accord. En fait, ton message positif, c'est aussi que c'est à chacun de construire sa vie selon ses propres règles, tout simplement.
D'apprendre à se connaître, ses limites, et c'est en connaissant ses limites qu'on sait aussi de quoi on est capable.
Oui, c'est s'alléger aussi du poids de ce qu'imposent les autres. Le il faut que, il faut faire comme il faut.
Voilà, ça c'est bien parce que le voisin il est ça.
Ouais.
Voilà. Non.
Tu te bats contre les conventions?
Ah oui, et je me bats contre les conventions et j'invite tout le monde à connaître leurs convictions.
C'est joli ça.
Je sais pas. C'est joli.
On écoute le troisième morceau que tu as emmené, c'est Little Numbers de Boy. Little Numbers de Boy. Pourquoi tu as choisi ce morceau?
Il est très entraînant. Je le mettais tout le temps avant de commencer les concours. Je montais les escaliers avec mon ordinateur, avec les MP3 à fond dans les oreilles avant les concours. Dans l'avion, je me le passais tout le temps. C'est un morceau qui m'a mis en condition plusieurs fois pour démarrer des oraux.
Oui.
Ça me décharge un peu des appréhensions et quelque part après, le jury me sent bien, contente d'être là et voilà. Et c'est un morceau qui m'aide à ça.
D'accord. Et puis pour la petite histoire, c'est la musique de la boxe de
SFR. C'est la musique de la boxe de SFR. En plus, on avait gagné SFR Jeune Talent. Du coup, après, ouais. Je me suis gardé un peu ce morceau comme mon porte-bonheur pour mes concours.
Alors justement, là, le concours SFR Jeune Talent t'a permis de rentrer dans une communauté de jeunes entrepreneurs.
8.
Où tu te sens à ta place.
Oui, ça a été formidable de rencontrer 8 porteurs de projets qui ont été lauréats des SFR Jeunes Talents et qui ont participé à tous ces séminaires. On était ensemble 24 heures sur 24, presque. Mm-hmm. On partageait quasiment tous les mêmes problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de doute, problèmes de concilier famille. Enfin, non pas trop concilier famille et travail, parce que c'était des jeunes, donc j'étais la seule... S'il y en avait une autre qui avait des enfants, mais on n'était que 2 sur les 8, donc en fait c'était pas que ça qui ressortait souvent. Ce qui ressortait souvent, c'était est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je suis à ma place.
Oui. Qu'est-ce qui représente ce groupe alors pour toi maintenant?
On se suit tous sur Facebook. Oui. J'ai été affectée parce que là il y en a un qui vient d'abandonner un peu, et je le savais très 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 engagé. Après, certains avancent bien, d'autres moins bien, mais on garde tous un lien.
Oui.
Et on comme des miroirs.
Oui.
On se renvoie ce qui est possible, en fait. Mm-hmm. C'est ça. Je sais pas si, par exemple, moi, avec mes enfants, je donne l'image que c'est possible de concilier travail et famille.
Oui.
Pour celles qui se posent des questions sur ça. Ou d'autres qui se disent, j'ai pas assez de revenus pour faire un projet, donc si c'est possible. On se renvoie à travers nos expériences de vie. La limite de ce qui est possible.
Et puis c'est une nouvelle famille.
Oui, c'est une nouvelle. Franchement, c'est une nouvelle famille. Nous tarde de nous retrouver.
Ouais.
On ne sait pas où, ni quand, ni comment. Mais à chaque fois, on essaye de concilier, de voir si nos emplois du temps pourraient correspondre et qu'on puisse se voir.
Toi qui as vécu la rupture familiale, c'est.
C'est formidable. Mm-hmm. Et donc il y a un réalisateur qui nous suit pendant un an à 3 porteurs de projets pour faire un film sur l'entrepreneuriat social.
Ouais.
Et donc, il observe comme ça des similitudes entre nous et des différences. Et il cherche à en tirer des grandes lignes.
Mmh.
Voilà.
D'accord.
On a tous perdu cette année quelqu'un de proche, notre grand-père, tous les trois. Mmh. Alors qu'il nous suit tous les trois. Et c'était des symboles pour nous, ces personnes. Et à chaque fois, dans le projet, ça a eu son impact.
Voilà. Ouais, quelque chose qui vous rapproche en plus. Voilà. Alors Christelle, tu as déjà montré qu'on pouvait croire en ses rêves, qu'on pouvait sortir de la précarité en entreprenant, qu'on pouvait mener de front une évolution professionnelle et une vie de maman.
Oui.
Et maintenant, qu'est-ce que tu veux montrer encore?
Qu'on peut faire confiance à des gens qui ne sont pas forcément de notre milieu,
oui.
Qui viennent de d'autres horizons et qui peuvent constituer après des vraies pièces déterminantes dans un projet ou dans une continuité de vie.
D'accord, faire confiance.
Faire confiance à l'autre, qui n'est pas forcément qu'un danger ou qu'un inconnu qui connote négatif. L'autre peut être très très positif dans beaucoup de choses, a beaucoup à apporter. Et ça passe par une confiance que l'on donne, sans au début en mesurer la portée en fait. Enfin, moi je fais confiance en premier et après je vois si ça peut continuer.
D'accord. Et puis il y a aussi un projet qui te tient à cœur, c'est partir en vacances la valise vide.
Ah oui.
Alors ça c'est génial. Ce
sauf qu'avec 2 enfants,
c'est pas possible pour l'instant.
Sinon, ils vont me détester. Mais moi, si je pars seule, je pars avec une valise vide, oui.
Oui.
Je prends le strict minimum et je reviens avec la valise pleine. Mais je prends rien. Ça rien.
À méditer.
Voilà.
Eh bien, merci Christelle pour ton témoignage.
Merci à vous.
J'espère qu'il aura donné confiance et énergie à ceux qui actuellement portent un projet, quel qu'il soit.
Oui.
Hein, la devise, c'est que c'est possible. Hein.
Oui, tout est possible quand on sait ce qu'on veut faire.
Si des auditeurs sont intéressés par la micro-crèche, c'est la maison des bibis. Hein. Oui. On donnera les coordonnées sur le podcast de l'émission. Chers auditeurs, si vous voulez témoigner de vos expériences de vie positive et dire vous aussi que c'est possible, contactez-moi par mail dorothee.alio@hotmail.com. Cette émission est rediffusée samedi à 21h et elle est en podcast sur cfmradio.fr. Rubrique Les émissions, émission Ondes positives. Je vous souhaite une belle semaine et à mardi prochain.